20 outils pour mieux mémoriser, voilà le but ultime de ce programme, aider l'enfant de façon concrète à mieux mémoriser. Mieux mémoriser, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire prendre moins de temps à apprendre, apprendre de façon plus agréable et retenir les informations sur le long terme. Tout ce que je vous ai présenté avant est là pour vous aider à comprendre comment on fonctionne, ou du moins une partie de notre fonctionnement, parce que comme je vous l'ai dit, le cerveau humain est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Mais le fait de comprendre tout ça, ça permet de mieux mettre en pratique. Mais si toutefois les explications que je vous ai données dans les autres podcasts, ou par exemple vous n'avez pas écouté les podcasts, vous n'avez pas lu, vous avez survolé rapidement parce que ça ne vous intéressait pas trop, aucun problème, ça ne va pas du tout vous empêcher de mieux mémoriser, parce que le cœur de ce programme, c'est vraiment les 20 outils que je vais vous présenter maintenant. Alors je voulais préciser une chose, je n'en ai inventé aucun. J'ai juste passé de nombreuses heures à les trouver dans des livres, sur des sites spécialisés et à les noter au fur et à mesure des mois et des années. Et quand je les ai découverts, pour la très grande majorité, c'était après avoir terminé mes études. Donc moi je me dis que si tous les enfants avaient accès à cette base de données, le plus tôt possible, eh bien, il y aurait beaucoup moins d'enfants malheureux et beaucoup moins d'échecs scolaires. Donc testez chacun de ces outils. Certains ne sont applicables que dans certaines situations. Par exemple, vous allez voir que vous ne pourrez pas utiliser l'outil numéro 4 pour apprendre une poésie, mais je vous encourage vraiment à tester chaque outil dans les situations que je vous présente. Notez aussi que pour certains outils, je donne la méthodologie, je donne les étapes, mais que ça va être à vous et aux enfants de mettre en application de manière concrète. Enfin, il se peut que vous ayez des coups de cœur pour certains outils, mais ne mettez pas pour autant les autres de côté, parce que vos enfants ne sont pas vous et que eux pourraient être plus à l'aise avec certains outils que vous n'avez pas retenus, qui n'ont pas attiré votre attention. Donc dans cette liste de 20 outils, vous trouverez des outils à utiliser tout de suite de façon très concrète et d'autres plutôt sous forme de jeu ou d'exercice pour s'entraîner à mieux mémoriser au quotidien, parce que la mémoire c'est comme un muscle, on peut l'aider à se muscler de façon très simple en s'amusant. Alors c'est parti, voici 20 outils pour mieux mémoriser. Le premier outil, ce sont les moyens mnémotechniques. L'un des objectifs du cerveau, c'est de raisonner vite et de consommer le moins d'énergie possible. Parfois, le cerveau va faire des erreurs. Vous connaissez l'expression « l'exception qui confirme la règle ». Quand le cerveau s'est fait une règle, il ne va pas s'embarrasser d'exception, c'est-à-dire qu'il va appliquer cette règle dans tous les cas, 100%. Et il préfère avoir juste 99 fois sur 100 et faire une erreur, que prendre beaucoup d'énergie pour essayer juste d'avoir la réponse juste 100 fois sur 100. Évidemment, si on se dit 99% de taux de réussite, c'est quand même énorme. Mais bon, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, ce qu'on aimerait, c'est ne pas nous faire avoir quand il y a des pièges et bien sûr que le cerveau retienne les exceptions. C'est pour cette raison que parfois, on a une réponse réflexe qui est fausse, mais qui est suggérée comme vraie par notre cerveau. Donc, on ne peut pas effacer cette règle. C'est impossible de l'effacer du cerveau parce que lui, il l'a accepté comme marchant à quasiment à tous les coups. Donc, il va continuer à l'utiliser. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'inhiber. C'est-à-dire qu'on peut prendre conscience que notre cerveau nous piège et réfléchir un peu plus pour passer au-dessus de la réponse réflexe. Et le bon outil pour réussir ça, ce sont les moyens mnémotechniques qui permettent de nous dire clairement non, là, il y a une exception car. Donc, pour les moyens mnémotechniques, il faut des phrases courtes pour qu'elles se retiennent facilement, un peu comme un refrain, comme une chanson, et pour qu'elles puissent être sorties au bon moment pour éviter certaines erreurs. Voici trois exemples concrets de moyens mnémotechniques. Ce sont trois exemples, il en existe plein d'autres, et vous pouvez créer vous-même les vôtres, en tout cas les enfants le peuvent. Et je vous donne des exemples concrets pour que vous puissiez retenir la méthode. Par exemple, les si détestent les ré. C'est une phrase toute simple. Les si détestent les ré. Moi, je l'ai apprise quand j'étais petite et aujourd'hui, je peux encore la ressortir. Quand quelqu'un dit si j'aurais, si je pourrais, c'est pas français, ça se dit pas. On dit si j'avais été à la fête foraine, j'aurais pu croiser Amélie, par exemple. C'est si j'avais été à la fête foraine et pas si j'aurais été à la fête foraine. Et pas dans la même. Dans la même veine, si je pouvais voler, j'irais jusqu'en Chine. On ne dit pas si je pourrais voler, on dit si je pouvais. Donc pour retenir ça, que quand il y a le si, on met derrière je pouvais, c'est la bonne conjugaison. Et bien dans ce cas-là, la phrase mnémotechnique que moi j'utilise, c'est les si détestent les ré. On peut aussi mettre, par exemple, quand on apprend à un enfant de CP ou de CE1, les mots invariables comme toujours ou jamais, eh ben, y a une phrase tout simple qui dit toujours prend toujours un S et jamais n'est jamais sans S. Et quand on le retient, ça devient un refrain et c'est très très facile à retenir. Un dernier exemple que vous connaissez sûrement, mais où est donc Ornicard ? C'est une petite phrase, on a mis les mots bout à bout, mais où est donc Ornicard ? Comme si c'était une question et comme si Ornicard était un personnage. Et en fait, ça permet de réunir dans une seule phrase toutes les conjonctions de coordination en français, c'est-à-dire mais, ou sans accent, et et, donc, or, ni, écart. Ce sont les mots invariables qui s'écriront toujours de la même façon et qui permettent d'unir deux éléments dans une phrase. Voilà, donc ça, ce sont des moyens mnémotechniques. Vous avez compris le principe. Deuxième outil, c'est le palais de la mémoire, qu'on appelle aussi la méthode des lieux. Alors, il faut savoir qu'une expérience a été réalisée aux Pays-Bas en 2017. On a réuni des champions de la mémoire et des personnes lambda, comme vous et moi, qui ne sont pas champions de la mémoire. L'objectif, c'était de se souvenir d'un maximum de mots dans une même longue liste. Les personnes lambda, après avoir eu les mots, se souvenaient entre 26 et 30 mots, alors que les champions de la mémoire se souvenaient de 71 à 72 mots. Ensuite, on a refait ce test une deuxième fois avec les mêmes personnes, mais cette fois en séparant les personnes lambda en trois groupes. Donc le premier groupe, c'était un groupe sans entraînement. Ça ne changeait rien de la première expérience. Le deuxième groupe, on l'a entraîné avec la méthode de repérage des lettres. C'est une méthode dont je ne parlerai pas parce que pas à propos au niveau de la mémorisation, etc. Donc voilà, je cite juste ce qui a été fait. Et le troisième groupe a été entraîné avec la méthode du palais de la mémoire. Donc je vous en parle juste après de cette méthode. Les résultats de ce deuxième test ont montré que le premier groupe a augmenté son score seulement de 7 mots. C'était les mêmes mots, donc ça a un petit peu augmenté. Le deuxième groupe a augmenté de 11 mots, donc c'est vraiment pas grand-chose par rapport à ceux qui n'ont pas fait d'entraînement, alors qu'eux, ils se sont entraînés, mais c'est une méthode pas efficace. C'était celle, comme je vous ai dit, du repérage des lettres. Et le troisième groupe, lui, a augmenté son score de 35 mots. Donc là, c'est quand même une grosse avancée. L'entraînement avec le palais de la mémoire a permis aux personnes lambda du troisième groupe d'avoir un score bien plus proche de celui des champions de la mémoire. Et on a refait un troisième test 4 mois après le deuxième test. Seul le troisième groupe avait conservé 22 mots de plus qu'au premier test. Donc la méthode du palais de la mémoire est plus efficace. Elle permet de retenir sur plus long terme et surtout, elle est hyper bluffante. Alors, cette méthode, elle est utilisée depuis l'Antiquité. Et encore aujourd'hui, les champions de la mémoire l'utilisent, ainsi que les personnes qui font des discours, des présentations en public, mais aussi les grands responsables politiques ou d'affaires. Le principe est le suivant, j'ai décomposé cette méthode en plusieurs étapes. La première étape, c'est le fait de choisir un mini-trajet dans votre tête que vous faites très souvent. Et vous allez vous le représenter mentalement. Ça peut être un trajet que vous faites à pied, je ne sais pas moi, tous les jours, vous emmenez votre enfant à l'école à pied. Donc vous connaissez ce trajet par cœur, par exemple, c'est un trajet de 5 minutes. Ça peut être ce trajet-là. Ça peut être un trajet dans votre maison, c'est-à-dire tous les jours quand vous rentrez du travail, quelles sont les habitudes que vous faites à partir du moment où vous ouvrez la porte. Ou alors, quelles sont les choses que vous faites à partir du moment où vous vous réveillez le matin. Voilà, donc ça peut être votre maison, ça peut être un trajet que vous faites tous les jours. D'accord ? Ça, c'est la première étape. Vous représentez mentalement ce trajet. Ensuite, vous choisissez pour votre trajet, donc en représentation mentale, le nombre d'étapes représentant les choses dont vous devez vous souvenir. Pardon. Par exemple, si vous devez mémoriser les présidents de la 5e République, alors vous définirez 8 étapes, parce qu'il y a 8 présidents de la 5e République en France. Mais si vous devez vous souvenir des 3 choses que vous devez faire en ville avant de rentrer, par exemple, je ne sais pas moi, poster votre lettre pour les impôts, récupérer la couette au pressing et acheter le dessert à emmener chez votre hôte ce soir, eh bien, vous ne mettrez que 3 étapes dans votre mini-trajet. Donc, vous définissez les étapes, le nombre d'étapes de votre trajet mental en fonction du nombre de choses que vous devez retenir. Alors maintenant, la troisième étape, eh bien, vous allez visualiser votre première étape. Moi, je vais prendre 2 exemples. D'accord ? Je vais prendre l'entrée de votre appartement, par exemple. Et comme si vous rentriez dans votre appartement. Et bien maintenant, on passe à la troisième étape. Vous allez visualiser votre première étape. Je vais prendre comme exemple l'entrée de votre appartement. On imagine que vous rentrez de votre travail, il est, je sais pas moi, 18h, vous rentrez, vous passez la porte, vous mettez la clé dans la porte et vous passez la porte. Voilà, donc la première étape, dans mon exemple, ça va être l'entrée de votre appartement. Vous allez vous représenter quelque chose, une image mentale qui soit en lien direct avec la première chose dont vous devez vous souvenir. Le cerveau adore les associations rigolotes, loufoques, improbables, farfelues. Donc plus vous mettrez en scène des associations incongrues, plus vous vous en souviendrez. On va reprendre l'exemple des présidents de la 5e République en France. Le premier président de la 5e République en France, c'était Charles de Gaulle. On peut associer ce président à la Gaule, et donc aux Gaulois. Quand je pense aux Gaulois, moi ça me fait penser à Obélix. Alors on peut représenter Charles de Gaulle par Obélix, et on va placer Obélix sur le paillasson dans l'entrée. D'accord ? Donc ça c'est mon premier exemple, mon premier président de la 5e République, Charles de Gaulle, je le représente par Obélix, parce que Obélix me fait penser aux Gaulois, aux Gaulois me fait penser à De Gaulle, et je pense à Charles de Gaulle. Voilà, ça c'est une association d'idées, rigolote, loufoque. Donc je place Obélix sur le paillasson dans l'entrée. Donc quand je vais m'imaginer mon trajet, j'imagine que je mets la clé dans ma porte, j'ouvre la porte, et là sur mon paillasson, au moment où je dois essuyer mes pieds avant de rentrer, je vois Obélix. D'accord ? On va faire la même chose avec la liste des trois choses que vous devez faire avant de rentrer. Par exemple, on avait dit tout à l'heure que c'était poster votre lettre pour les impôts, récupérer la couette au pressing et acheter le dessert. D'accord ? Donc, pour ce deuxième exemple, la première chose que je dois faire, c'est me poster ma lettre. Donc, je place dans mon image mentale de l'entrée de mon appartement une énorme lettre avec écrit dessus « impôts ». D'accord ? Quatrième étape, et ben je vais faire la même chose pour toutes les étapes. Donc tout le long du trajet, soit dans mon appartement, soit le trajet à l'extérieur que vous faites pour aller déposer votre enfant à l'école, ou que vous faites pour aller à la poste, ou que vous faites pour aller au travail, enfin peu importe, vous allez faire la même chose qu'on vient de faire là, c'est-à-dire que vous allez déterminer à chaque étape, placer un objet incongru, un truc qui vous fait penser à la chose dont vous devez vous souvenir. Alors on va faire, je vais faire l'exemple au total en fait, avec vous par rapport, attendez, j'essaye de retrouver mes notes, voilà, par rapport aux 7 présidents de la 5e République. Donc, je vais faire, on va commencer par l'exemple des 3 courses parce que c'est plus court. Donc, dans l'entrée, je place une grosse enveloppe avec impôts écrit dessus. Ensuite, j'imagine que je me rends dans la cuisine, par exemple, pour boire un verre d'eau. Et là, je trouve la couette dans l'évier, la couette que je dois aller chercher au pressing. Ensuite, je vais dans le salon pour m'asseoir et là, je vois un énorme gâteau sur le canapé. D'accord ? Donc, on a bien les 3 choses. La grosse enveloppe pour les impôts, la couette et le gâteau. Donc, c'est les 3 choses que je dois faire. Et elles sont bien dans l'ordre de mon parcours, c'est-à-dire dans l'entrée, dans la cuisine et dans le salon. C'est un exemple tout simple. Donc, je refais ce parcours mentalement plusieurs fois et quand j'irai faire les courses, je me souviendrai juste simplement du trajet. Je vais me refaire mes images mentales improbables. Je vais me remettre dans le contexte et je vais me retrouver devant ma porte. Je vais dire, ah oui, la grosse enveloppe avec écrit impôt. Une fois que c'est fait, j'avance et je me dis, ah oui, dans l'évier, je vais pouvoir boire un verre. Et là, je trouve la couette dans l'évier. Et puis après, je vais dans le salon pour m'asseoir. Et là, je vois quoi ? Un gâteau sur le canapé. Ok ? Donc maintenant, on va faire la même avec les présidents de la 5e République. Donc, on a dit les idées... C'est les miennes, elles viennent de mes propres associations personnelles. Donc si elles ne vous plaisent pas, vous pouvez imaginer les vôtres. De toute façon, le principe est le même et l'objectif, c'est d'arriver à faire vos propres parcours mentaux, votre propre palais de la mémoire. Donc, sur l'entrée, on voyait Obélix pour Charles de Gaulle. Ensuite, je me dirige vers le placard où je mets mon manteau. Et là, je vois qui ? Je vois Betty Boop derrière le rideau qui dit « Pou, pou, pidou, pou ». Vous connaissez un peu ça, si vous êtes un peu de l'ancienne génération. Un enfant aura du mal à comprendre parce que pour un enfant, Betty Boop, ça lui dit rien. Les enfants de la génération de ma fille, par exemple. Mais pour moi, voilà, Betty Boop, je connais bien. Et elle disait tout le temps pou pou pidou pou. Et moi, pou pou pidou pou, ça me fait penser à Georges Pompidou. Donc, premièrement, le paillasson sur lequel il y a Obélix. Deuxièmement, je vais poser mon manteau et derrière le rideau, je vois Betty Boop qui dit pou pou pidou pou. Ça me fait penser à Pompidou. Ensuite, je me dirige vers le placard à chaussures et j'enlève mes chaussures et là, je vois quoi ? Une photo qui traîne par terre de ma copine Valérie. Vous avez compris, Valérie pour Valérie Giscard d'Estaing. 4. Je vais me laver les mains. Oui, moi, je me lave toujours les mains quand je reviens de l'extérieur, parce que entre tout ce qu'on touche et tout ça, voilà. Donc, je vais me laver les mains au lavabo de la salle de bain. Et là, il y a une mythe en pull-over qui se promène sur le miroir. Alors, l'association peut vous faire bizarre, mais pour moi, la mythe en pull-over, c'est une citation qui est tirée du film Le Cinquième Élément. Cinquième élément rime avec Mitterrand. Et de plus, mythe commence comme Mitterrand. Donc pour moi, la mythe en pull-over qui se promène sur le miroir me fait penser à François Mitterrand. Ensuite, je vais au salon. Et là, au salon, il y a une grosse crotte sur le canapé qui me fait penser à Chi pour Jacques Chirac. Désolée de l'association, mais c'est très efficace. Comme je vous ai dit, plus c'est improbable, plus c'est rigolo et plus on le retient. Donc là, je vois une grosse crotte sur le canapé. Je pense à Jacques Chirac. Ensuite, j'allume la télé et là, il y a un clip. Et c'est la chanson de Carla Bruni. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Carla Bruni, c'est l'épouse de Nicolas Sarkozy. Donc, sixième président Nicolas Sarkozy. Ensuite, je vais dans la salle à manger. Je vois sur la table une vache hollandaise pour François Hollande. Et enfin, je vais dans la cuisine et il y a un ordinateur, un Mac rond. Un ordinateur rond, donc un Mac rond, qui cuit dans le four. C'est Emmanuel Macron. Et voilà, on a tous les présidents. Alors ensuite, ce qu'il faut, bah, c'est se refaire l'histoire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait retenu. Et ensuite, bah, il suffit juste que l'association corresponde au président, au bon nom, pour ne pas se planter. Voilà, certains spécialistes de cette méthode disent qu'on peut retenir jusqu'à 60 étapes, comme ça. Là, je vous en ai montré 8, mais apparemment, on peut retenir jusqu'à 60 étapes. C'est quand même énorme. Moi, je vous ai donné un exemple avec comme itinéraire votre appartement, mais comme je l'ai dit, on peut le faire avec votre trajet de chez vous au travail ou du travail à l'école de vos enfants, etc. Plus le trajet est familier, plus vous pouvez rajouter d'étapes. Donc, l'étape, ça peut être quand vous sortez, ensuite quand vous traversez la route, ensuite quand vous montez la pente, ensuite quand vous passez devant la boucherie, ensuite quand vous tournez à droite à l'angle d'une agence immobilière, ensuite vous avez à gauche la pharmacie, etc. D'accord ? Donc, vous représentez ça, et soit dans les vitrines, soit sur le trottoir, voilà. Et bien, vous placez les objets qui vont vous faire penser aux éléments dont vous devez vous souvenir. Donc ça, c'était le palais de la mémoire. Pourquoi on l'appelle comme ça ? Et pourquoi il a été interdit ? Parce qu'en fait, au Moyen-Âge, la majorité des gens utilisaient l'église pour faire leur lieu de mémoire, enfin, pour faire leur trajet. Et ils y associaient beaucoup d'images liées au sexe ou des choses comme ça qui étaient évidemment interdites par l'église. C'était péché. Donc du coup, ben, on a interdit et du coup cette pratique s'est peu à peu perdue. En tout cas, elle est devenue une exception, quoi. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui la connaissent. Alors maintenant, méthode numéro 3, la reconnaissance ou la méthode du à tout prix. Elle ressemble un peu au palais de la mémoire, mais cette fois, il s'agit de se souvenir une fois qu'on en a besoin de tout ce qui était absolument important à se souvenir. Là, on va ne se souvenir que de quelques éléments, 3 ou 5 maximum, pour que ça fonctionne, d'accord ? Donc, il faut absolument se souvenir uniquement des choses qu'il faut absolument savoir, c'est-à-dire à tout prix. Vous devez arriver à l'endroit où vous voulez vous souvenir des éléments importants avec uniquement 3 ou 5 choses en tête et c'est tout. Les autres éléments vont venir naturellement, mais vous avez ces 3 à tout prix. Prenons un exemple pour un contrôle de maths. J'ai un contrôle de maths demain, je ne dois me souvenir que de 3 choses concrètes et les maîtriser parfaitement. Par exemple, le théorème de Pythagore, comment faire des droites parallèles et comment calculer l'aire d'un cercle. Voilà, je dis au pif 3 choses en maths dont je veux absolument me souvenir. Ça peut aussi être des choses, comme tout à l'heure on disait, dont on a besoin pour faire les courses. Par exemple, je dois aller faire mes courses, je vais au magasin avec mes 3 à tout prix en tête. Ça peut être du papier toilette, du dentifrice et le dessert pour ce soir. Et tout le reste, si je passe dans les rayons et que je me dis « Ah oui, ça j'en ai besoin », pas de souci, mais j'ai mes 3 à tout prix en tête. Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Tout simplement parce que dans ma tête, je sais quel est le numéro 1, je sais quel est le numéro 2 et je sais quel est le numéro 3. Et quand je suis confrontée à d'autres éléments, je peux les faire. Dans mon contrôle de maths, ça ne m'empêchera pas du tout de répondre aux questions et de faire les exercices de géométrie en fonction de ce que je pense savoir, pas de souci. Et au magasin, je peux aussi acheter des fruits et des légumes, des flocons d'avoine, mais dans ma tête, j'aurai toujours mon top 3. Et quand j'ai enfin devant moi un des 3 éléments, et ben dans ma tête, je peux le barrer. Il ne m'en reste plus que 2. Donc pour mon contrôle de maths, si j'ai mis en application le théorème de Pythagore, Je le maîtrise, je sais qu'à cet exercice, j'aurai juste. Il me reste à me concentrer sur les deux autres points que je sais qu'ils doivent à peu près tomber dans le même examen. D'accord? Pour mes courses, j'ai dans mon sac le dentifrice. Je sais qu'il reste encore le papier toilette et le dessert pour ce soir. Du coup, je ne sortirai pas du magasin sans avoir mes trois à tout prix. Et je ne rendrai pas mon contrôle de maths tant que je n'aurai pas fait mes trois exercices que je maîtrise et qui étaient bien évidemment dans les leçons de maths des jours et semaines précédentes. Donc cette méthode est très puissante, mais elle ne peut pas fonctionner avec tout, on est bien d'accord. Quand elle est bien employée, elle est sans faille. C'est un peu comme font les hommes politiques qui démarrent leur discours en disant « j'ai trois annonces à vous faire ». Ils ne termineront pas leur discours sans avoir cité ces trois à tout prix, d'accord? Donc pour savoir quand utiliser cette méthode le plus efficacement possible, il faut tester sur différents sujets, différentes thématiques et puis voir. Ça peut par exemple être très efficace en français ou en philo, quand on a retenu trois auteurs et leurs trois œuvres majeures, par exemple. On sait qu'on ne va pas rendre notre copie tant qu'on ne les a pas citées dans la dissertation. Ça peut aussi être efficace en histoire-géographie tant qu'on n'a pas abordé cinq dates importantes de la période étudiée et les faits en rapport à ces dates. Tout le reste est en plus et va venir alimenter, mais à tout prix. D'où l'importance de vraiment bien sélectionner les éléments qu'il faut à tout prix restituer. Mais on peut encore utiliser cette méthode pour aider l'enfant à gagner en autonomie et en organisation. Par exemple, en l'aidant à définir ses trois à tout prix dans ses devoirs. Ça peut être 1. Lire tous les devoirs à faire. 2. Commencer par le plus difficile. Et 3. Barrer tous les devoirs faits. Ainsi, une fois que les trois à tout prix sont faits, on réalise qu'il n'y a presque plus rien à faire ou alors que tout est fini. Mais ça peut aussi être dans sa préparation le matin avec par exemple 1. Me laver les dents. 2. M'habiller. 3. Vérifier mon sac. Et tous les jours faire la même chose dans le même ordre. Le reste, comme me coiffer, prendre mon petit-déj ou encore mettre mes chaussures, viennent forcément se rajouter parce qu'on va pas sortir sans avoir mangé, on va rarement sortir sans avec les cheveux tout ébouriffés et on va rarement sortir pieds nus. Donc cela, d'office, on va y penser. Mais les trois premiers, me laver les dents, m'habiller, vérifier mon sac, au moins je sais que je les ai faits, j'ai fait mes trois à tout prix. Ce ne sont que quelques exemples, on est bien d'accord, pour avoir une idée de l'étendue de cette technique. Maintenant, on va parler de la méthode numéro 4, les crochets de la mémoire. Cette méthode utilise l'association d'idées, que le cerveau aime vraiment beaucoup. Le principe, c'est le suivant. J'accroche un chiffre à un mot ou à un objet. Le choix du mot ou de l'objet n'est pas fait au hasard. Ça va être un mot ou un objet qui nous rappellera systématiquement ce chiffre. Donc, tel mot ou tel objet me rappellera systématiquement un chiffre. Et l'objectif, c'est que plutôt de retenir des chiffres, je vais retenir des mots qui vont permettre de me représenter mentalement une image, une scène ou alors une petite histoire. Et en remettant les éléments dans l'ordre, je peux retenir les chiffres dont j'avais besoin. D'accord ? Donc il y a deux méthodes. Il y a soit le fait d'accrocher le chiffre à un mot parce que le mot ressemble phonétiquement au chiffre, c'est-à-dire qu'il y a le même son, soit de l'accrocher à une forme, parce que l'objet ressemble au chiffre au niveau de sa forme. Donc, je vous donne un exemple. Pour la première méthode, accrocher le mot qui ressemble phonétiquement au chiffre, il y a le même son dedans, on a dit, ce qui fait que c'est facile de m'en souvenir. Par exemple, 1 égale nain ou pain. On peut inventer son propre tableau de correspondance avec les chiffres de 1 à 10 ou même de 1 à 20 si on veut. De 1 à 10, c'est quand même bien plus simple. Ou alors, on peut utiliser une table de correspondance déjà existante. Moi, je vous enjoins une dans le fichier PDF. Pour vous donner l'exemple, vous pouvez l'utiliser. Mais l'idée, c'est que lorsque vous devrez vous souvenir d'une date importante en histoire ou du numéro de l'emplacement où vous vous êtes garé ou encore d'un numéro de téléphone ou du numéro de la carte vitale, enfin voilà, et ben, vous visualisez les images des mots correspondant aux chiffres et vous gardez cette photographie en tête tout le temps nécessaire. Avec la table de rappel chiffres-sons ci-dessous, on va prendre l'exemple d'un code d'entrée d'immeuble, qui serait par exemple 4195, donc 4195. On va se représenter une scène avec les images représentant ces quatre chiffres, le 4, le 1, le 9 et le 5. Par exemple, le 4 est représenté par un cadre, donc on va se représenter un joli cadre, donc un tableau, à l'intérieur duquel il y a un pain pour le 1 et un 9, côte à côte, l'œuf pour le 9, d'accord ? Donc un cadre, le 4, un pain à l'intérieur, c'est-à-dire le 1, et un 9 à sa droite, à côté de lui, pour le 9. Et là, il y a un singe qui vient les manger. D'accord ? Le singe vient par la droite et vient pour manger ces chiffres. Le singe représente le 5. Donc il faut vraiment que l'ordre des représentations mentales soit l'ordre des numéros à retenir. On va pas mélanger le singe et inverser le singe et le pain, par exemple, parce que sinon on le lira 4, 5, 9, 1. Or, nous, on veut 4, 1, 9, 5. On est bien d'accord. Donc voilà, ça c'est un exemple avec les chiffres qui sont représentés par une image qui a le même son. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi accrocher le chiffre à une forme. L'objet va ressembler visuellement au chiffre écrit. Par exemple, le 1 ressemble à un pinceau ou à une aiguille. Le 2 va ressembler à un signe, avec la tête du signe sur la gauche et le corps, les plumes vers la droite. Et donc son cou forme la boucle du 2. Le 3 peut être représenté par une fourche. Le 4, un voilier ou à une personne assise avec les genoux perpendiculaires au buste, par exemple. Voilà, c'est à vous d'imaginer les chiffres jusqu'à 10 et à vous représenter les images dans votre tête. Il faut que votre table de correspondance soit tout le temps la même. Pour avoir toujours cette même base, ça va être beaucoup plus facile. Donc lorsque vous devrez vous souvenir d'un chiffre, vous visualiserez là encore une scène avec les formes correspondantes. Par exemple, votre voiture est égarée à la place 124, et vous allez imaginer une scène où quelqu'un coud avec son aiguille, puisque l'aiguille représente le 1, quelqu'un coud avec son aiguille un signe qui nage près d'un bateau, près d'un voilier. Donc l'aiguille c'est le 1, le signe c'est le 2, le 4 c'est le bateau. Le cerveau va se représenter une scène fictive qui n'existe pas. C'est ça qu'on appelle une image mentale. Mais le cerveau, il faut savoir qu'il utilise les mêmes astuces d'imagerie mentale pour retrouver un numéro avec la technique des crochets que pour pratiquer un sport de haut niveau. Le cerveau va activer exactement les mêmes aires cérébrales quand la personne effectue un geste physique réel, comme un sportif qui s'entraîne, ou quand il l'imagine, comme on le fait lorsqu'on utilise l'imagerie mentale, avec la méthode du crochet ou du palais de la mémoire. Donc les crochets phonétiques, les deux là que je viens de vous donner, que ce soit le chiffre associé à un mot qui a le même son ou le chiffre associé à une image, sont parfaits pour les deux types de personnes. Parce que les crochets phonétiques sont parfaits pour les personnes qui sont plutôt auditives, alors que les crochets par image sont adaptés aux personnes plutôt visuelles. Il suffit donc de trouver les crochets qui nous correspondent le plus et ce sont eux qui nous aideront le plus. Cinquième technique, c'est la technique de l'histoire. Cette technique est ultra puissante. Elle permet d'apprendre des listes dans un certain ordre en concevant une histoire que l'on peut facilement se représenter mentalement et qui va marquer notre esprit facilement et permettre aux éléments en fait d'être intégrés pour une longue durée. Plus l'histoire est farfelue et rigolote, mieux on la retient. Donc ensuite, il suffit de se remémorer l'histoire et alors on peut restituer les différents éléments. Donc ça peut être pour différents éléments dans une suite logique, mais ça peut être aussi des choses plus complexes. On va voir différentes applications. Par exemple, vous souhaitez apprendre les mots finissant par « ou » qui prennent un « x » au pluriel. Là, on a fait une histoire avec Janae qu'on a imaginée toutes les deux, donc il y a à peu près un an, donc elle avait 4 ans et demi. Et du coup, vous pouvez vous inventer la vôtre. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment on a fait. Et donc, on a pris tous les mots en « ou » qui se termine par un X au pluriel, et on a fait une histoire comme ça. Donc on a dit qu'il y a un bijou autour de la tête d'un hibou. Donc bijou, hibou. Ensuite, il y a des poux qui sautent sur la tête du hibou et qui tremblent des genoux. Le hibou a comme joujou un chou qu'il lance comme un caillou. Et voilà, on s'imagine vraiment la scène. Le hibou qui a ce collier, ce bijou autour de la tête. On imagine les poux qui saute sur sa tête et qui claque des genoux, qui tremble des genoux. On imagine bien le hibou qui a un chou dans la main qu'il lance comme un caillou et que c'est son joujou. Voilà. Ensuite, vous pouvez par exemple avoir envie d'apprendre les 5 pays les plus riches du monde. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous allez, un peu comme la méthode du palais de la mémoire, représenter chaque pays par un élément qui vous fait penser à ce pays. Et vous allez imaginer une histoire avec. Par exemple, vous voyez la statue de la liberté. La statue de la liberté représente quoi ? Représente les États-Unis. Tout en haut, il y a un dragon perché sur sa tête. Le dragon, ça vous fait penser à la Chine. Le dragon, il crache du feu. Il se bat avec un samouraï. Le samouraï, c'est le Japon. Le samouraï, il est en train de lancer de la choucroute à la tête du dragon. La choucroute, ça représente l'Allemagne. Et le dragon s'enfuit et se réfugie cette fois-ci en haut de la tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est quoi ? C'est la France. Avec cette petite histoire, vous connaissez maintenant les 5 pays les plus riches du monde. La statue de la liberté, en haut un dragon, c'est-à-dire la Chine perchée sur sa tête. Le dragon crache du feu et se bat avec un samouraï, c'est-à-dire le Japon. Le samouraï lance de la choucroute à la tête du dragon, quatrième pays, c'est l'Allemagne. Et le dragon s'enfuit pour se réfugier cette fois-ci en haut de la tour Eiffel, la France. Maintenant, imaginons que votre enfant galère avec ses tables de multiplication. J'en ai déjà parlé sur le blog, mais j'en reparle là maintenant. Mathieu Protin, qui est un ancien enseignant, a repris cette astuce utilisée par les champions de la mémoire, c'est-à-dire les histoires qu'on crée avec des objets rigolos pour qu'on retienne facilement l'histoire. Et en fait, il a inventé une histoire pour chaque table de multiplication. Chaque chiffre est un personnage, et quand il interagit avec un autre chiffre, il y a une histoire qui se passe. Il suffit d'apprendre l'histoire, ce qui est très facile, et ensuite ça permet de visualiser les scènes pour se souvenir de toutes ces tables de multiplication. Si ça vous intéresse, je vous mets dans le PDF le lien pour apprendre facilement les tables de multiplication grâce à la technique des histoires. C'est la méthode multimalin. D'ailleurs, Mathieu Protin ne s'est pas arrêté aux chiffres et aux tables de multiplication puisqu'il a fait la même chose avec certaines règles de grammaire. Donc ces outils sont de véritables mines d'or et je vous invite vraiment à aller les voir et à vous les procurer si vos enfants ont besoin de ces techniques. Nous arrivons à la sixième technique, sixième outil. C'est trois petits jeux pour booster sa mémoire visuelle. La mémoire visuelle, c'est tout ce que captent les yeux et qui est stocké à court, moyen ou long terme dans notre mémoire. C'est le fait aussi de se représenter visuellement quelque chose. Cette mémoire visuelle, elle permet de retenir un schéma facilement, une mind map ou même de visualiser dans sa tête. Donc tout ce qu'on vient de parler, tout ce dont on vient de parler juste avant, de toutes ces images mentales, etc., eh ben ça fait partie de la mémoire visuelle. C'est aussi cette mémoire visuelle qui nous permet de retrouver, de voir dans notre tête les différents titres d'une leçon qu'on a lue ou les différents paragraphes, etc., d'arriver à voir où étaient placés, localiser les éléments. Donc pour la booster, moi je vous propose trois jeux. Le premier jeu, c'est avec une image. Vous allez prendre une image sur internet ou dans un livre, une image où il y a beaucoup d'éléments. Il faut que ce soit une image jamais vue pour être aux aguets, c'est-à-dire pour être vraiment concentré. Vous allez visionner cette image pendant 10 secondes. Ensuite, quelqu'un va vous poser une question précise. De quelle couleur était tel objet? Que faisait tel personnage? Combien est-ce qu'il y a de voitures sur la route? Combien d'éléments se mangent, etc.? Et vous essayez de répondre juste. Et vous pouvez faire ce jeu avec les enfants, avec des images de plus en plus complexes. Vous pouvez aussi booster la mémoire visuelle avec le corps. Là, l'idée, c'est d'associer la mémoire visuelle au mouvement. Un des joueurs va prendre une position statue sur une chaise ou sur un tabouret. Les autres vont regarder pendant 5 secondes, puis se tourner. Pendant qu'ils ont le dos tourné, la statue va modifier une toute petite chose de sa position. Les autres joueurs se retournent et ils doivent retrouver la différence avec ce qu'ils avaient mémorisé juste avant. Puis un dernier jeu que vous connaissez sûrement, ça s'appelle le jeu de Kim, où vous proposez plusieurs objets devant la personne qui veut jouer. La personne a quelques secondes pour les regarder, les mémoriser, puis se retourne. Et là, on a deux choix. Soit on enlève un objet, et donc quand la personne se retrouve face aux objets, elle doit retrouver quel objet manque. Soit on échange deux objets de place entre eux. Donc il faut retrouver quelle est la différence. Ça, même avec des petits, on peut y jouer, hein, parce qu'on peut y jouer avec 4, 5 objets. Septième technique, septième outil, c'est l'agenda. Chaque jour, vous allez noter une chose que vous avez apprise pour faire le pont entre ce que vous avez appris et ce que vous utilisez au quotidien. Donc par exemple, vous choisissez un mot, vous l'apprenez et vous le placez dans vos discussions de la journée. Ou alors vous apprenez une nouvelle notion et vous l'appliquez dans la journée. En utilisant une connaissance déjà acquise, on apprend plus vite, mieux et plus longtemps. Donc pour un enfant, ça peut être un mot de vocabulaire en anglais, ça peut être la capitale d'un pays, ça peut être une multiplication, voilà. Chaque jour, on note une chose qu'on a apprise pour faire le pont entre ce que j'ai appris et ce que j'utilise au quotidien. Outil numéro 8, les mots-clés. Je fais cet outil-là et après j'arrête le podcast parce qu'il est déjà long. Et je ferai la suite dans un deuxième podcast. Comme ça, vous avez le temps de digérer aussi les informations. Donc, les mots-clés. Pour comprendre et apprendre une leçon, on peut, première étape, relire le cours. D'accord ? Ensuite, on va surligner les mots-clés dans le cours. On surligne le minimum de mots possibles. Il faut retenir que les plus importants. Chaque mot-clé nous permet de nous rappeler toute une notion. Donc, 20% des mots, c'est-à-dire ce sont les mots-clés, contiennent 80% de votre mémorisation. Donc il faut vraiment choisir les mots, les quelques mots qui vont vous aider à vous souvenir de la majorité de votre cours ou de la leçon. Ces mots sont des tiroirs qui vont permettre de retenir les informations dans votre tête. Ils représentent mentalement quelque chose, une image. Donc c'est suffisant pour apprendre en peu de temps. Pour trouver ces mots-clés, vous allez sélectionner pour chaque paragraphe un ou deux mots. Et c'est tout. Ce mot vous vient en tête facilement et vous aide à retrouver tout le reste. Donc 1, vous relisez le cours. 2, vous surlignez les mots-clés dans le cours. 1 ou 2 mots-clés par paragraphe. C'est tout. 3, vous recopiez le mot-clé dans la marge à gauche du cours. Réécrire, c'est assez puissant. Ça permet à la mémoire de se réapproprier les éléments. Donc, vous réécrivez une première fois. 4, vous relisez tous les mots-clés dans l'ordre. Vous ne relisez pas le cours, vous relisez les mots-clés. Vous fermez votre cahier ou votre livre. Vous prenez une feuille de brouillon et de mémoire, vous recopiez les mots-clés. Ensuite, l'étape suivante, une fois que vous avez recopié vos mots-clés, vous allez expliquer à voix haute la leçon à partir des mots-clés que vous avez écrits. Et ensuite, vous allez vérifier. Vous réouvrez votre cours, vous réouvrez votre livre, votre cahier, vous relisez et vous voyez si vous avez oublié des mots-clés. Lesquels, c'est pas grave, vous recommencez. Mais là, vous allez voir qu'en 10 minutes, vous pouvez déjà apprendre une leçon au lieu de passer 30 à 40 minutes. Ça permet de restituer facilement la majorité de votre cours, en tout cas le plus important. Et quand on apprend un cours, on ne vous demande pas d'apprendre tout par cœur. On veut juste que vous ayez compris la majorité. Donc là, c'est vraiment très très puissant pour ça. Voilà, donc on en est à l'outil numéro 8, si je ne me trompe pas. On vient de terminer le numéro 8. Donc on va aborder les 12 suivants dans le prochain podcast. Je vous retrouve tout de suite.